Bonjour Hélène Périvier.
Bonjour.
Vous êtes économiste à l'OFCE Sciences Po, vous êtes aussi directrice de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre. Et donc on va parler ce matin d'économie et de genre, l'économie féministe. C'est le titre de votre livre paru aux presses de Sciences Po, pourquoi la science économique a besoin du féminisme et vice-versa, et le vice-versa est important, dans un monde économique encore largement patriarcal. Alors le parti pris de ce livre, c'est notamment de faire de l'économie une science en lutte contre les inégalités de genre.
Oui, c'est l'idée d'abord de montrer que l'économie est une science sociale éminemment normative, donc qui s'interroge sur la société dans laquelle nous voulons vivre, donc qui se dote d'outils pour comprendre les problèmes, ici en l'occurrence les inégalités femmes-hommes et toute autre forme d'inégalité et de discrimination. Donc l'économie féministe, elle pousse l'économie dans ses retranchements, elle affirme une posture normative qui est celle de l'égalité des sexes, et ce qui fait une approche tout à fait particulière de l'économie.
Alors je note le titre de votre livre, l'économie féministe. Vous l'écrivez au singulier. Or, dans les deux cas, économie ou féministe, il existe différents courants de pensée. Alors, quelle signification donnez-vous à cette économie féministe?
Alors, c'est vrai qu'on aurait pu dire les économies féministes, et pour être plus précise, les sciences économiques féministes, parce que il y a une confusion entre...
Il y a l'économie et aussi les sciences économiques.
Tout à fait. Ouais. Et donc là, le livre parle vraiment de la science économique.
La science économique.
Et donc, on aurait pu, effectivement, tout à fait mettre les deux au pluriel, puisque les sciences économiques sont de multiples écoles de pensée, et qui sont très souvent en contradiction et en controverse, et de la même façon, les féministes, ou la pensée féministe, elle est multiple. Donc on aurait très bien pu appeler ça les économies féministes.
Et puis vous dites aussi que l'économie, c'est l'économie qui vous a mené au féminisme. Pourquoi ?
Tout à fait, parce que je pense que quand j'étais jeune, peut-être contrairement à d'autres jeunes femmes, je n'étais pas particulièrement, impliquée dans ce style de combat, où j'étais peut-être insuffisamment consciente des inégalités femmes-hommes. Et c'est en travaillant avec des collègues, notamment une collègue de l'université de Bruxelles, Danielle Mulders, qui était une économiste féministe très, très reconnue, que j'ai pu découvrir ce champ de recherche. Et c'est donc bien l'économie qui m'a mené au féminisme.
Mais en économie, qu'est-ce que l'approche féministe interroge, que n'interroge pas l'approche générale, c'est-à-dire masculine, l'approche classique, on va dire?
Alors, d'abord, ce que le féminisme fait à l'économie, c'est d'abord débusquer les biais et les valeurs, les biais cognitifs. Et quand on regarde l'histoire de la pensée en économie, on réalise assez facilement que les premiers penseurs de l'économie étaient pleins de biais, notamment sur le rôle des femmes et des hommes. Si on pense à la société du 19e siècle...
Avec Marx.
Mais même bien avant, mais il y avait cette idée que la division sexuée du travail est ancrée dans la nature. Alors le 19e siècle, c'est aussi la révolution darwinienne, c'est la révolution industrielle aussi. Donc il y a beaucoup de questions économiques et sociales qui se posent autour du rôle des femmes. Et l'idée que les femmes doivent s'occuper des enfants et des personnes dépendantes parce que c'est leur nature, parce qu'elles sont altruistes, est tout à fait partagée par nombre d'économistes. Pas tous, mais par la plupart d'entre eux.
Mais ça fait penser à ce à quoi nous réfléchissons depuis l'apparition du Covid-19, c'est-à-dire finalement tous ces métiers qui sont absolument essentiels et qui sont toujours en arrière-plan.
Tout à fait, parce que les métiers qu'on a pu voir mettre en avant, tout à fait, pendant cette pandémie, sont des métiers qui sont le plus souvent, en tout cas, occupés par des femmes, qui étaient des tâches que les femmes faisaient très souvent auparavant dans la famille et qui sont souvent dévalorisées. C'est aussi parce que ce sont des métiers dans lesquels, disons que les outils pour comprendre les échanges marchands ne sont pas appropriés, puisque la question de la productivité se pose pas du tout dans les mêmes termes quand on est infirmière ou quand on s'occupe de personnes dépendantes, il y a la qualité du soin, du temps que l'on passe avec les personnes est importante, et si on veut accroître la productivité, entre guillemets, on va forcément porter atteinte à la qualité du service rendu. Donc là, il y a un impensé aussi, il y a besoin effectivement d'adapter les outils pour comprendre comment on peut revaloriser ce secteur.
Et donc diriez-vous, Hélène Périvier, que les femmes sont parmi les principales victimes d'une économie malmenée par le Covid-19?
Alors, pour être très honnête, on ne sait pas, on n'a pas encore de données très consolidées sur ce qui se passe, en tout cas dans les pays riches. On sait certainement qu'il s'est passé des choses dans la famille, que la répartition des tâches supplémentaires qui ont dû être faites, notamment pendant les confinements, a certainement pas été parfaitement partagée. Mais il y a aussi des cas où madame a dû travailler, monsieur est resté en charge des enfants.
Et s'est mis à la cuisine.
Et peut-être s'est mis à la cuisine. Donc il faudra certainement avoir un peu plus de recul. Par contre, ce qui est certain, c'est que dans les pays pauvres, cette crise va être très défavorable à la situation des femmes qui sont surreprésentées dans le secteur informel et qui vont certainement être en première ligne des victimes de cette crise.
Alors pour vous qui êtes spécialiste de l'état social français, nos politiques publiques sont encore marquées, dites-vous, par un familialisme qui favorise les inégalités économiques au sein des ménages. Et à ce titre, vous dénoncez par exemple dans le livre, chez les couples mariés, le système d'imposition sur le revenu. Pourquoi ?
Alors, d'abord parce qu'il faut comprendre que les états sociaux en Europe se sont mis en place dans une idée de progrès social, dans la première
après-guerre.
Moitié du... Voilà, tout à fait. Avec l'idée de redistribuer les richesses, de réduire les inégalités sociales et économiques entre les ménages. Mais ça s'est fait au détriment de l'émancipation économique des femmes. Parce qu'on a considéré le ménage, la famille, comme une unité homogène. Ce qui, évidemment, n'est pas le cas. Et puis, on a essayé d'organiser la division du travail pour que madame reste au foyer et monsieur travaille.
Alors... Je fais une parenthèse dans le propos et on va reprendre. Ça a changé, ça, aujourd'hui ?
Oui, ça a en partie changé, bon. Bien sûr. Évidemment, heureusement,
ça, les inégalités... Ça reste quand même beaucoup, monsieur Gagnepain et
Madame Gagnemiette,
comme vous le dites dans votre livre. Vous l'écrivez.
Parce que les inégalités professionnelles sont encore très importantes et que le défi est encore celui-ci.
Alors donc, je vous ai interrompu, pardon. Donc, mise en place d'un système de politique publique après-guerre, comme un paradoxe, car la protection sociale, elle ne favorise pas les femmes.
Non, elle favorise pas l'émancipation des femmes. Ce qui veut pas dire que les femmes n'en ont pas profité. Donc, c'est vrai que cette redistribution, lorsqu'elle affecte le ménage auquel elles appartiennent, effectivement, ça a soutenu aussi leur niveau de vie, mais néanmoins pas leur émancipation économique. Et ce système du quotient conjugal dont vous parliez, c'est un système qui date de cette époque-là. L'idée était que monsieur, si sa conjointe est au foyer, elle est une charge pour lui, et donc le montant d'impôt dont il doit s'acquitter doit tenir compte de cette charge. Et c'est pourquoi on impose la moyenne des revenus d'un couple, c'est-à-dire que les couples déclarent leurs revenus conjointement, on leur attribue deux parts, et c'est à ce niveau-là qu'on affecte la progressivité de l'impôt. Ce qui fait que dans les couples dans lesquels les écarts de revenus sont très importants, il y a un avantage fiscal. En tout cas, le montant d'impôt à payer est beaucoup plus faible que ce qu'il aurait été si monsieur avait été imposé individuellement.
Sur le care, sur le soin, donc ce sont plutôt les femmes qui gèrent cet aspect de la vie. Avec quelle incidence donc concrète sur le marché du travail ?
Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que au moment de l'arrivée d'un enfant, les femmes vont davantage se retirer du marché du travail, réduire leur activité professionnelle, peut-être avoir une carrière moins dynamique. Prendre davantage les congés parentaux que leurs conjoints.
Alors, il semble que ça bouge tout de même, puisqu'on commence à diviser le congé parental pour les hommes, pour les femmes. Ça a évolué dans le bon sens, tout ça, pour vous ?
Alors, on a fait une réforme du congé parental en 2015 pour essayer d'inciter les pères à prendre une partie de ce congé, puisque le congé, normalement, dure 3 ans. Et en 2015, on a décidé qu'un parent ne pourrait pas prendre plus de 24 mois du congé, en faisant le pari que ce seraient les pères qui prendraient la dernière année. Et les premières évaluations de cette réforme montrent que les pères n'ont pas pris du tout cette dernière année. Et donc, cette réforme n'a pas eu l'effet escompté, du moins du point de vue de la division du travail dans les couples. Mais néanmoins, les femmes sont revenues sur le marché du travail plus tôt.
Mais je voudrais juste faire une parenthèse, Hélène Périvier, si vous le permettez, parce que dans votre livre, il y a une phrase qui m'a fait bondir, alors vous allez vous en expliquer. Vous écrivez qu'aujourd'hui, les jeunes économistes, alors qui font peut-être partie de ces jeunes pères, sont encouragés à adopter des stratégies de publication qui déterminent leur carrière, en laissant parfois de côté leur désir de répondre à des questions qui leur semblent pertinentes.
Oui, alors ça a été montré par des grands économistes qui montrent que, en fait, la production de savoir en économie est en partie guidée par la volonté de publier dans des grandes revues, notamment les 5 grandes revues, puisque c'est ça qui va déterminer votre parcours professionnel. Ne pas avoir de publication dans l'une de ces revues peut
donc
être très dommageable.
Ça veut dire qu'on cherche dans une certaine direction.
On cherche en tout cas à plaire et on cherche en tout cas à utiliser des méthodes qui sont celles qui vont pouvoir être publiées plus facilement. Alors évidemment, ça ne guide pas l'ensemble des publications, mais c'est vrai que c'est un biais qui est un peu inquiétant. À cela s'ajoute quand même un biais anglophone très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme dans beaucoup de sciences, on publie en anglais, ce qui veut dire que lorsqu'on n'est pas anglophone parfaitement, on aura un handicap par rapport à d'autres. Donc c'est vrai que dans les publications en économie, il y a un certain nombre de problèmes, notamment ne pas laisser... la recherche aussi libre qu'elle devrait être.
Sur les publications, il existe aux États-Unis depuis une trentaine d'années l'International Association for Feminist Economics, avec les revues ou la revue qui va avec. Quelle est son influence réelle de cette association et de la revue d'ailleurs aussi ?
Alors, c'est l'International Association, donc c'est pas états-unien stricto sensu, c'est vraiment une association internationale d'économistes qui travaille.
L'ONG est basée au Nebraska, je crois.
Oui, oui, mais bon, oui, il y a une volonté quand même d'être extrêmement ouvert sur l'ensemble de la planète, enfin des pays et des cultures diverses. L'influence, bon, déjà, ça a été quand même une reconnaissance, une forme d'institutionnalisation, enfin d'institutionnalisation de cette branche dans l'économie, ce qui n'a pas été fait dans d'autres sciences sociales. C'est ça que je trouve assez intéressant. Mais peut-être aussi, vous parlez d'influence, j'aurais du mal à vous dire exactement l'influence, parce que je crains que ça ségrée un peu la problématique féministe à un espace d'entre-soi où des économistes qui travaillent sur cette thématique échangent entre eux sans qu'il y ait vraiment une diffusion très large. Bon, néanmoins, l'économie du genre, en tout cas, travailler sur le genre, c'est certainement développé ces dernières années et certainement
alors que les femmes étaient disqualifiées, les femmes qui embrassent cette carrière-là sont disqualifiées dès le départ.
Oui, alors c'est plus difficile, ça c'est vrai dans toutes les sciences sociales, c'est plus difficile pour une femme de travailler sur cette thématique parce qu'on va avoir le sentiment qu'elle est juge et partie, ce qui est absurde puisque si elles sont jugées parties, les hommes aussi, si des inégalités femmes profitent bien plus aux hommes qu'aux femmes, donc on pourrait très bien avoir le même raisonnement, mais c'est vrai que c'est probablement plus difficile, mais c'est quand même davantage des femmes qui travaillent sur ce sujet, même si aujourd'hui, comme l'économie du genre se développe et d'une certaine façon prend de l'ampleur, il y a aussi beaucoup d'hommes qui commencent à travailler sur cette question aussi.
En France, Emmanuel Macron a fait de l'égalité femmes-hommes une des grandes causes de son quinquennat. Avec quelle incidence, quelles conséquences sur, alors on pourrait dire, sur l'économie ou sur, sur les sciences économiques ?
Alors normalement, c'est plutôt les sciences économiques qui sont censées éclairer ou en tout cas apporter des réponses, bien que...
Dans votre livre, c'est vice-versa.
Oui, c'est vice-versa, mais c'est quand même la conclusion du livre, c'est essayer de proposer une économie féministe qui soit possible à mettre en place en réformant les politiques publiques. Alors, il y a quand même déjà toujours un peu ce qu'on peut imaginer dans la sphère de la recherche, et puis après, ce qu'on est en capacité de faire dans un espace démocratique, c'est toujours beaucoup plus difficile. C'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est que peut-être Emmanuel Macron est passé à côté d'une grande réforme qui aurait pu être une réforme fiscale et sociale qui aurait pu porter l'égalité femmes-hommes, notamment à travers une réforme de ce quotient conjugal dont on a parlé tout à l'heure, qui aurait pu permettre de financer un congé parental qui était d'ailleurs porté par l'Europe, que la France n'a pas souhaité accompagner. La directive n'a pas été signée par la France, et c'était une directive extrêmement engageante pour essayer de mettre en place un congé parental bien partagé entre les parents. Voilà, peut-être que ce tournant-là a été raté.
Et si l'économie genrée, si l'économie féministe reste encore balbutiante en France, vous attribuez, vous localisez les réticences où ?
Ben c'est assez difficile. Je pense qu'il y a d'abord la question de l'enseignement, de cette perspective. Donc, pour avoir des jeunes docteurs qui veulent travailler sur ce sujet-là, je pense qu'il y en a de plus en plus. Donc, peut-être c'est une question aussi de temps pour que ça se développe davantage.
Mais vous dites que dans le monde, il n'y a qu'un quart des économistes qui sont des femmes.
Oui, alors là, c'est encore une autre question. Mmh. C'est-à-dire, qui sont les économistes qui travaillent, quel que soit le sujet? Mmh. Oui, c'est la discipline, enfin, c'est la science sociale la moins féminisée. Ce qui tient certainement à son côté extrêmement masculin, extrêmement proche du pouvoir aussi. Donc on voit bien que dans tous les espaces sociaux, dès lors qu'on a des lieux qui sont très empreints de pouvoir et de hiérarchie, il y a moins de femmes.
Mais donc, Esther Duflo, par exemple, qui a reçu le prix Nobel en 2019, le prix Nobel d'économie, est-ce que ça peut justement ouvrir là aussi une perspective intéressante ?
Oui, parce que, alors là, certains économistes l'ont bien montré, la question des rôles modèles, ça fonctionne. C'est-à-dire que les jeunes femmes, lorsqu'elles voient des jeunes femmes qui réussissent dans une profession, elles s'y engagent davantage. C'est aussi parce que l'économie a peut-être la réputation d'être pas très engageante ou bienveillante vis-à-vis des femmes. Donc les jeunes femmes hésitent davantage à s'engager dans cette voie.
Et question sur le management. Si le management est genré, à quoi ressemblerait un management au féminin bien distinct de celui qui est attribué au management des hommes?
Alors, je pense qu'il faut pas tomber dans le piège de l'essentialisme, qui conduirait à dire que les femmes se comportent différemment des hommes.
Alors, je vous rappelle la phrase de Christine Lagarde qui avait dit qu'en 2008, si Lehman Brothers s'était appelé Lehman Sisters, le monde en aurait été changé. Sûr ou pas si sûr que ça, d'ailleurs?
Ah non, pas du tout sûr, tout à fait contraire. Non, je pense qu'à chaque crise, et ça, on l'a vu aussi pendant la crise du Covid, ressort cette idée que si on avait mis plus de femmes, ça se serait mieux passé. Les femmes qui dirigent des pays ont mieux géré la crise du Covid, par exemple, que d'autres. On l'a beaucoup vu dans la presse.
Ça, vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Non, parce que d'abord, il y a très peu de femmes qui dirigent des pays, donc il n'y a pas suffisamment de statistiques pour pouvoir avoir quelque chose de scientifiquement solide. Et puis parce que certainement que la causalité n'est pas celle-ci. Des pays plus inclusifs, qui sont beaucoup plus ouverts, qui sont donc plus bienveillants vis-à-vis des femmes, ont plus de chances d'avoir une femme à leur tête, et donc potentiellement plus de chances aussi de mieux gérer des crises.
Il ne faut pas non plus tomber dans le travers de dire que les entreprises qui comptent davantage de femmes dans leur conseil d'administration, quoique elles ne sont toujours pas très nombreuses, sont plus performantes, pas forcément non plus.
Pas du tout, d'ailleurs la littérature n'a pas du tout de consensus là-dessus. On montre que certains montrent que oui, d'autres montrent que non. Je pense que cette question n'est pas la bonne. La raison pour laquelle on veut faire monter des femmes dans des postes de responsabilité, c'est parce qu'il y a un déficit de représentation des femmes qui certainement montre qu'il y a une sélection discriminatoire à leur encontre. Et si on attend des femmes une certaine performance, alors là, on conditionne un principe de justice, qui est l'égalité, à une performance économique qui n'est pas du tout certaine.
Et pour terminer, il n'y a pas de fatalité à la discrimination dans ce genre, dans les sciences économiques?
Il n'y a pas de fatalité. Disons que les sciences économiques, leur rôle, c'est de montrer, mesurer les discriminations, de montrer les politiques publiques qui permettent de lutter contre cette injustice qui est faite à certaines catégories de personnes. Les sciences économiques sont au service du bien commun et d'une fondation d'une société juste.
Et l'économie, ça a un genre?
L'économie a un genre. Oui, alors on pourrait dire que l'économie a un genre, puisqu'il y a des thématiques qui sont identifiées comme étant plus masculines, par exemple la finance et d'autres plus féminines. La macroéconomie est plus masculine, et puis l'éducation est considérée comme plus féminine, mais il y a beaucoup de femmes aussi qui travaillent en macroéconomie, en finance, mais c'est vrai que dégenrer l'économie, ce serait aussi quelque chose à faire.
Eh bien, on lira ça dans votre livre, Hélène Périvier, ça s'appelle « L'économie féministe ». Préface de Thomas Piketty, oui. À lire également dans ce livre qui est paru
chez... Dit que c'est un ouvrage à lire absolument.
Exactement, chez Sciences Po, les presses Sciences Po. Merci beaucoup. Merci. Hélène Périvier est venue en parler ce matin sur France Inter.